Stéphane, bonjour.
Bonjour Franck.
Alors donc, voilà, ce bel été se terminant, vous avez l'honneur, et puis je suis très heureux de vous proposer de démarrer cette nouvelle saison par, donc un de vos livres que nous allons vous présenter. Donc, comme d'habitude, et j'aime bien, c'est que je suis surpris de savoir quel livre vous allez nous présenter. Donc, de quel livre s'agit-il, Stéphane ?
Il s'agit de La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao, écrit par Juno Diaz.
Ok, donc qui est Juno Diaz ?
Alors Juno Diaz, c'est un écrivain d'origine dominicaine qui vit aux États-Unis et qui est très talentueux, qui a marqué, enfin son livre a fait la une de plein de journaux, et donc c'est pas vraiment un livre un peu obscur comme dont je parlais les fois d'avant, mais c'est je sais pas s'il est très connu finalement, même s'il a été très médiatisé à sa sortie, et il y en a sans doute beaucoup qui ont été vendus, mais c'est un livre qui m'a marqué et j'ai à cœur de vous expliquer pourquoi.
Très bien, donc je vais vous laisser nous parler de ce livre et je vais être très attentif.
Okay. Donc, pour commencer, ce livre, c'est la vie d'un jeune dominicain dont on fait la connaissance dans une banlieue du New Jersey, dans un coin un peu moche, un peu d'immigration, pas très glamour. Et ce personnage qui se rêve en romancier va commencer à nous raconter un peu son histoire. Et son histoire va nous emmener à travers plusieurs cultures et à travers plusieurs imaginaires. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce livre. C'est que ça fait craquer un petit peu la trame de la réalité qu'on connaît d'habitude. Donc on a cette personne qui est apparemment banale, qui vit dans un quartier avec une high school américaine, avec les problèmes de lycéens et de choses comme ça. Et petit à petit, en découvrant sa vie, on va rencontrer tout un pan de notre histoire et d'une culture que je ne connaissais pas bien. C'est la culture de dominicaine. Peut-être je vais vous lire un petit extrait parce que ça raconte, ça présente un peu l'origine. On dit qu'à l'origine, il arriva d'Afrique charrié par les hurlements des captifs. Ce fut le fléau mortel des Taïnos, frappant à l'instant où un monde périssant et un autre surgissait. C'était un démon précipité dans la création par une porte cauchemardesque entrouverte sur les Antilles. Fuku Americanus. Ou plus familièrement, Fuku. Ici, la malédiction et la fatalité du Nouveau Monde. Il paraît que l'arrivée des Européens en Hispaniola libéra le Fuku dans la nature, et depuis, on est tous dans la merde. En ces temps anciens, le Fuku avait la niaque. Il était une sorte de hype man, un grand prêtre, si vous préférez. Notre dictateur à vie de l'époque, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Personne ne sait si Trujillo était le serveur de la malédiction ou son maître, son mandant ou son mandataire, mais il était flagrant qu'ils avaient un arrangement, qu'ils étaient comme cul et chemise. Et le bruit courait dans les milieux cultivés que quiconque complotait contre Trujillo s'attirerait un foucou des plus puissants jusqu'à la 7e génération et au-delà. Et alors, ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est que ça présente à la fois la partie historique et la partie imaginaire et la partie superstition, puisque tout ce livre va être l'histoire du Fuku, c'est-à-dire du destin contrarié de notre héros et de toutes les manières qu'il essaye d'échapper à ça. Et on voit que sa famille, sa mère, son grand-père ont tous été frappés par ce Fuku et malgré tout. Donc il y a une dimension comme ça très très noire de leur vie. Il y a en même temps une vivacité, une capacité à traverser les épreuves, à être à survivre qui est pleine d'humour. Et ce contraste entre les deux me touche beaucoup. Et c'est un livre aussi, j'ai vu quelques critiques de lecteurs. Certains ont trouvé que c'est difficile parce que ça mélange beaucoup de l'argot, de l'espagnol, du français pour la traduction ou de l'anglais pour la version originale. Et j'aime beaucoup, les deux cultures qui se rentrent l'une dans l'autre. Et on a une vision extérieure qui est très calme. Et en fait, il y a un bouillonnement de cette rencontre de ces deux cultures. Et donc, une des choses qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est la manière dont, plus on progresse dans l'histoire, plus de nouvelles portes s'ouvrent. On part avec l'histoire de ce garçon, et puis on découvre l'histoire de sa sœur, et on découvre l'histoire de leur mère, et on découvre l'histoire des aventures de jeunesse de leur mère, et puis l'histoire de leur mère quand elle était jeune, l'histoire de leurs grands-parents. Et on voit comment la richesse de l'héritage existe et est complètement inconnue et souterraine dans ces histoires parce que ce garçon qui habite aux États-Unis est porteur d'une histoire qui n'est pas sue, qui n'est pas entendue. Et moi, par exemple, j'ai eu une connaissance. Enfin, je connaissais pas du tout l'histoire de Saint-Domingue, je connaissais pas l'histoire de ce dictateur qui a contrôlé l'île pendant si longtemps et d'une manière aussi implacable. Et comment cette dictature a marqué les vies de tous ses habitants, comment cette dictature était intimement liée avec l'histoire des États-Unis, Et cette histoire de cette île, de ce peuple, de cette culture, avec ses croyances, ses superstitions, sa manière de vivre, c'est en quelque sorte adapté à cette vie anormale de la dictature. On a fabriqué quelque chose et que ça a créé de l'exil pour plein de gens. Et ça a donné ce garçon qui s'est retrouvé dans ce lycée banal des États-Unis et qui s'inscrit dans une image très conventionnelle, pas du tout intéressante a priori, mais derrière ce personnage porte l'ombre de toute cette histoire sur plusieurs générations. Et c'est la manière dont ce livre essaye de le faire exister malgré la force de l'oubli, la force le fait d'être comme ça dans un méandre annexe de l'histoire auquel c'est même pas que les gens s'en fichent, ils savent pas que ça existe. Enfin, moi, je savais pas que ça existait. C'est une amie d'Amérique du Sud qui m'a fait connaître un peu l'histoire de cette île. Et en fait, c'est une histoire incroyable. Et ce que j'aime, c'est qu'on oublie que le monde est si riche et si rempli d'histoires. Et ce livre, il ouvre une porte comme ça, qui nous dit voyez, le monde est plus grand que vous ne pensez. Et ça me plaît beaucoup. Et ça c'est très riche parce que ça marche sur l'humour, ça marche sur la langue, sur le mélange des langues. Sans doute, moi, ça me parle parce que je viens d'origines diverses et que j'aime entendre ce mélange des langues. Enfin, je connais, c'est familier pour moi. Et j'ai vu des critiques de lecteurs qui disent qu'ils n'ont pas aimé ce livre parce qu'il y a trop de langues inventées, trop d'expressions en espagnol, que ça rend la lecture ardue. Et en fait, pour moi, ça rend la lecture intéressante. Et j'ai pensé, c'est un peu comme le roman dont j'ai parlé la fois d'avant de William Gibson, qui nous projette dans un futur où il invente des mots du futur sans les définir. Et donc, il y a aussi cette difficulté d'acquérir une langue qu'on ne maîtrise pas encore. Et dans ce livre, il y a aussi cette dimension-là qui moi, m'a beaucoup plu. C'est comme l'intrusion des cultures d'une culture dans une autre. C'est toute l'imagerie de la culture macho sud-américaine, toute la façon de dire des jurons, tout ça qui vient un peu clandestinement s'insérer dans la langue habituelle. Et ça, je trouve, c'est comme... c'est comme la vie qui essaye de l'herbe qui pousse à travers les pavés. C'est pour moi, ça me touche beaucoup, cette dimension-là. Donc pour conclure, je vous recommande vivement la lecture de ce livre qui fait sentir que l'histoire d'une personne porte en elle l'histoire d'une communauté, d'un pays, du monde. Et en regardant avec assez d'attention ou en entendant les gens avec assez d'attention, on trouve des trésors. Et c'est ce qu'on trouve dans ce livre, un trésor.
Eh bien écoutez Stéphane, merci beaucoup pour encore ce moment de découverte. Au revoir Stéphane.
Au revoir Franck. À la prochaine.
À très très bientôt.